Nous sommes à la veille d'une 10e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Cela fait 2 mois que chaque samedi, nous assistons à des affrontements physiques violents avec les forces de l'ordre. Il y a eu environ 1 millier de blessés côté gendarmes et policiers, selon les chiffres du gouvernement. Plus de 1 700 parmi les manifestants qui dénoncent notamment l'usage du LBD, le lanceur de balles de défense. Bonjour Sébastien Rocher.
Bonjour.
Vous êtes politologue spécialisé en criminologie, directeur de recherche au CNRS. Le défenseur des droits Jacques Toubon demande la suspension de cette arme. La France insoumise compte déposer une proposition de loi et réclame une commission d'enquête. C'est de là que vient le problème de ce LBD ?
En partie, oui, il y a un problème au niveau de l'équipement et puis de l'usage de l'équipement, mais il y a évidemment aussi la question d'ensemble de la stratégie qui a été choisie. Mais c'est indiscutable que l'arme elle-même est maintenant utilisée dans des conditions qui n'étaient pas du tout celles de son introduction en 1994 par Claude Guéant sous l'autorité de Charles Pasqua à l'époque, qui était le ministre de l'Intérieur.
À l'origine, c'était prévu pourquoi ?
Alors, à l'origine, c'est une arme qui est prévue pour intervenir dans des situations très très spécifiques, dans des interventions de police particulières, et puis elle sera progressivement étendue en 2002. Nicolas Sarkozy procède à des achats de les ministres de l'Intérieur de grandes quantités de matériel, puis en 2009... C'est M. Pechnard, le directeur général de la police nationale à cette époque, qui prévoit que toutes les unités qui interviennent dans des situations, disons dans les quartiers populaires où il y a des risques de violence urbaine, bien toutes les unités pourront l'utiliser. Donc à partir de 2009, on a vraiment une généralisation de l'outil.
Et tous les policiers, tous ceux qui l'utilisent, sont forcément systématiquement formés ?
Alors ils sont formés, mais ils sont formés en théorie, ça ne veut pas dire qu'en pratique, il y ait suffisamment de place dans les formations pour que ce soit le cas.
C'est-à-dire, elle dure combien de temps la formation ?
Il y a 6 jours, mais c'est pas nécessairement...
6 jours ou 6 heures ?
6 heures. Oui, 6 heures, mais c'est pas, encore une fois, il n'y a pas nécessairement le temps de pouvoir reformer tout le monde.
Et puis j'imagine que c'est sur des cibles fixes, ou alors est-ce qu'ils arrivent à le faire que dans des conditions d'intervention, par exemple pour simuler le fait d'être face à une foule ?
Alors il y a des entraînements qui sont des entraînements fixes, et il y a un centre en France qui sert aussi à s'entraîner à la gestion, mais à la gestion de violences urbaines. Donc on a des foules, mais qui sont des foules hostiles dans le cadre d'une, je dirais, d'une rébellion. On n'est pas à ce moment-là dans un entraînement qui correspond à la gestion d'une foule très large et très dense, comme on peut le voir dans les manifestations.
L'an dernier déjà, le défenseur des droits avait demandé un moratoire sur cette arme. Une étude sur sa dangerosité, ça a été fait ?
Il y a eu des recommandations qui ont été émises, déjà d'ailleurs par l'ancêtre du défenseur des droits, donc il y a maintenant 10 ans. Et puis aujourd'hui, on n'a pas d'éléments nouveaux, on n'a pas de prise en compte de ces recommandations, ce qui a amené le défenseur des droits dans cette semaine-ci, à nouveau réitérer ses recommandations et à demander un moratoire, c'est-à-dire une suspension temporaire de l'usage avant de se décider sur le fond. Donc il n'y a pas de décision de fond, c'est pas ce qui est demandé pour le moment, mais simplement un usage qui serait suspendu.
Et est-ce qu'il y a eu des études médicales aussi sur cette arme ? On le voit bien depuis 2 mois, c'est une arme qui mutile et qui provoque des blessures graves, très graves même.
Oui, alors il y a des études médicales qui ont été réalisées. Il y a notamment une synthèse très importante qui a été réalisée par des collègues de l'université de Berkeley à partir de l'ensemble des études médicales réalisées dans le monde depuis sur une trentaine d'années, sur 27 ans exactement. Et la conclusion des médecins de santé publique de Berkeley, c'est que cette arme n'est pas adaptée à la gestion des foules et donc au maintien de l'ordre, étant donné le nombre de décès, de cas d'invalidité ou de blessures graves qu'elle procure.
Alors la réponse des policiers, ils disent que ben, ils n'ont pas grand-chose en fait quand ils sont face à la foule. Hein, c'est ou la lacrymo ou le tir à balles réelles. Donc finalement, cette arme, elle est plutôt utile. Vous comprenez leur discours ?
Oui, bah, je comprends très bien, parce qu'en fait, une fois que vous avez choisi d'équiper les policiers, une fois que la décision politique a été prise d'équiper les policiers avec ce type d'armes, c'est très difficile de les enlever. Parce que les policiers, ils se sentent complètement, je dirais, nus. On leur enlève quelque chose qu'ils ont qui sont habitués à utiliser, qu'on a fait entrer, disons, dans les modes d'action de la police, et à partir de là, ils ont l'impression d'être privés et d'être fragilisés par rapport à la foule. Mais ce qu'on voit bien, c'est que les pays du nord de l'Europe ont refusé d'utiliser cette arme. Les Anglais ne l'utilisent pas en maintien de l'ordre. Chez les Allemands, vous savez, la police est régionale, il y a un certain nombre de Länder, mais en fait, il n'y a que deux des Länder qui vont l'utiliser sur la totalité en Allemagne. Donc, la plupart des pays en Europe ne choisissent de pas l'avoir. Donc, ils n'ont pas le problème de qu'est-ce qu'on fait pour essayer de limiter son usage. Mais donc, ça sera très difficile de faire marche arrière, concrètement. C'est très difficile d'enlever quelque chose que vous avez donné.
Donc, le problème vient aussi plus globalement de la doctrine française du maintien de l'ordre, de la façon de faire dans ce genre de manifestation.
Oui, et puis même, je dirais, au-delà, il y a un premier problème qui est effectivement, en matière de maintien de l'ordre, le choix qui a été fait de renforcer l'équipement, d'armer la police avec ses armes dites intermédiaires ou à létalité réduite, c'est-à-dire qu'elle tue parfois, mais pas systématiquement. Donc c'est le cas des grenades, des encerclements, c'est le cas maintenant des grenades qui ont été supprimées suite au décès à Sivens d'une personne qu'il avait reçue par hasard. Donc il y a énormément en fait d'équipement qui est aujourd'hui présent en France. Contrairement, c'est la police en Europe, parmi les grands pays, hein, qui est la plus armée en France. Donc il y a un problème de matériel, et puis un problème de stratégie où on a une très forte tension entre la police et les protestataires, et on n'a pas une suffisante volonté d'adapter la stratégie et de proposer ce qui se fait ailleurs, donc ce qu'on appelle maintenant la désescalade, hein, les techniques qui permettent de limiter la confrontation et pas qui permettent de se préparer à la confrontation maximum.
Est-ce que le problème vient aussi du fait que dans ces manifestations, il y a évidemment des gendarmes mobiles et des CRS qui, eux, sont les deux composantes du dispositif de maintien de l'ordre, mais il n'y a pas que, il y a d'autres policiers dans ces manifestations qui, eux, sont peut-être pas tout à fait formés à gérer les foules.
Alors, en fait, ce qu'a choisi de faire le gouvernement à partir du mois de décembre, c'est de sortir toutes les unités dont elle disposait. Donc, il y a tout le monde. Et les images, disons, permettent à chacun de le voir, peut-être pas de les décrypter, mais de le voir. On a les blindés de la gendarmerie. On les avait jamais sortis dans cette quantité-là. Ils étaient tous présents. On a des hélicoptères dans le ciel. On a des policiers à cheval. On a des unités à moto. On a des unités de CRS et des gendarmes mobiles, mais aussi des policiers de la sécurité publique qui sont pas spécialisés dans le maintien de l'ordre, pour la plupart d'entre eux, et on va avoir des unités d'intervention comme les BAC. Donc en fait, il y a tout le monde. Et à ce moment-là, effectivement, on n'a pas le degré d'entraînement des unités spécialisées.
Merci beaucoup Sébastien Rocher pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes politologue et auteur notamment du livre « De la police en démocratie ».